Bienvenue à tous, nous sommes heureux de vous accueillir et nous voulons aujourd'hui partager sur le plan de prière du tabernacle dans Exode chapitre 40 et le verset 1er. Il est écrit « L'Éternel parla à Moïse et dit « Le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation, tu y placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. » Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier et tu en arrangeras les lampes. Tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Tu placeras la cuve entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau. Tu placeras le parvis autour et tu mettras le rideau à la porte du parvis. Tu prendras l'huile d'onction et tu en oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles et il sera saint. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles. Et tu sanctifieras l'autel, et l'autel sera saint. Tu oindras la cuve avec sa base, et tu la sanctifieras. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés. Tu l'oindras, et tu le sanctifieras pour qu'il soit mon service dans le sacerdoce. Tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras des tuniques. Tu les oindras comme tu auras oint leur père pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. Amen. Le tabernacle était une tente qui était utilisée dans l'Ancien Testament et qui permettait au peuple de s'approcher de Dieu. Et j'aimerais voir que ce tabernacle était l'ombre des choses célestes. En fait, c'était la réalité matérielle, mais de ce qui est spirituel dans le ciel. Et il a été donné à Dieu, par Dieu, aux hommes, afin qu'ils puissent venir l'adorer, qu'ils puissent venir offrir leurs offrandes, qu'ils puissent venir célébrer leur Dieu. Cela pendant toute la durée de la période du désert. Il y a eu 40 années pendant lesquelles le peuple venait adorer dans le désert au tabernacle. Mais en même temps que ce tabernacle a disparu, que nous n'en avons plus de traces aujourd'hui, nous savons que le message qu'il véhicule est intemporel. En fait, le message qui est véhiculé à travers le tabernacle nous parle encore aujourd'hui. Il nous explique comment nous pouvons entrer en relation avec Dieu. Et c'est cela que je voudrais voir avec vous. Parce que c'est vrai pour tous les temps, c'est vrai pour toutes les générations et c'est vrai pour tous les pays. Le tabernacle a disparu, mais on peut dire que le message véhiculé, le message spirituel du tabernacle demeure. Le tabernacle, c'était une image matérielle des choses célestes. Et le terrestre disparaîtra toujours, mais ce qui est céleste demeurera toujours. Seuls les sacrificateurs pouvaient entrer dans les parvis du tabernacle. Alors, vous avez autour du tabernacle cette tenture blanche qui l'entoure. En fait, si vous regardez à l'époque, il n'y avait que les hommes qui pouvaient rentrer dans cette section du tabernacle pour adorer Dieu. Et pas tous les hommes ne pouvaient y entrer, c'était que des hommes de la tribu de Lévi. Et encore, pas tous en même temps, il y avait un ordre pour pouvoir rentrer à certains jours, certains offices. Et il y avait toute une procédure pour s'approcher de Dieu. Et Dieu a tout bouleversé quand Jésus est mort à la croix. Parce que cette idée du tabernacle, qu'on ne pouvait plus pas s'approcher de Dieu si facilement que cela, eh bien, a été transformée par Jésus lorsqu'il a dit « tout est accompli ». La Bible dit que le voile du temple s'est déchiré en deux et que l'accès à la sainte présence de Dieu était possible pour tous. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, nous voyons que nous sommes des sacrificateurs. Que l'Église est une nation sainte. Aussi bien là, ce que nous représentons, nous sommes des sacrificateurs hommes et femmes. Il n'y a plus la tribu de Lévi, qui était une tribu à part. Il y a des hommes et des femmes qui sont des chrétiens, des sacrificateurs, qui vont pouvoir apporter leur adoration à Dieu en toute liberté, parce que Dieu accueille tout le monde et désire l'adoration. Et Dieu a voulu que sa présence soit accessible à tous. Et j'aimerais voir au travers du tabernacle, qui a aujourd'hui disparu, mais dont l'enseignement nous parle, sept étapes par lesquelles nous pouvons nous approcher de Dieu. Sept étapes. La première, c'est la porte. Il y avait une porte à l'entrée du tabernacle, qui était ce tabernacle qui était entouré de voiles blancs qu'on appelait du fin lin. Et sur une superficie de 50 mètres de long sur 25 mètres de large, c'était le territoire du tabernacle dans lequel il y avait le parvis. Et pourquoi il y avait ce voile tout autour du tabernacle? C'était tout simplement pour délimiter ce qui est saint de ce qui est profane. C'est-à-dire que nous devons réaliser, quand on entrait dans le tabernacle, qu'on entrait dans un lieu saint, un lieu mis à part, un lieu qui est coupé du monde, qui est séparé du monde. C'est le sens de sanctifier. Tout le tabernacle était sanctifié. Le tabernacle, même le mobilier, par exemple, l'autel, les fourchettes qui servaient au sacrifice, les couteaux, tout le mobilier, les sacrificateurs étaient sanctifiés, l'intérieur du lieu saint, le lieu très saint, tout était mis à part pour Dieu, et rien de profane ne pouvait rentrer dans la sainte présence de Dieu. Il y avait donc quelque chose d'important de réaliser. Et ça, c'est spirituellement vrai pour nous, c'est que quand nous venons dans la présence de Dieu, nous devons rendre compte que nous entrons dans un lieu saint. La sainte présence de Dieu, c'est un lieu à part, c'est un lieu séparé, séparé du monde, dans sa spiritualité. On n'est pas dans l'esprit du monde, on est dans l'esprit de Dieu. Il faut franchir cette porte pour entrer dans ce lieu saint. Et nous devons apprendre à respecter les choses saintes. Parce que bien souvent, même quand on est chrétien, on ne réalise même plus les choses saintes de Dieu. Et on vient avec désinvolture dans sa présence. Mais l'auteur aux Hébreux, dans Hébreux chapitre 12 et au verset 16, dit ceci. « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui pour un mai vendit son droit d'aînesse. » Ésaü, c'était un croyant, mais il ne respectait pas les saintes choses de Dieu. Et il a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Il n'a pas réalisé la sainteté de Dieu, la majesté de Dieu, et il est déclaré profane, c'est-à-dire quelqu'un qui méprise les saintes choses de Dieu. Et ça, c'est grave, quand on n'a pas réalisé la sainteté de Dieu, quand on vient dans sa présence et qu'on ne réalise pas qu'il est là, qu'il est saint, qu'il est parfait, mais qu'on méprise les choses de Dieu. On devient profane. Et c'est pourquoi la porte nous parle déjà qu'il y a un détachement à faire entre notre vie dans ce monde et rentrer dans la présence de Dieu. Il faut passer par cette porte. D'ailleurs, vous l'avez remarqué sur l'écran, il y a une seule porte pour entrer dans le tabernacle. Le tabernacle était très très grand en surface, mais il fallait toujours trouver la porte. Vous ne pouviez pas rentrer par l'autre côté. Le voile était trop haut, il fallait trouver la porte. Une seule porte, pourquoi? Parce qu'il y a un seul chemin, il y a un seul accès pour aller au Père. Et vous le connaissez? Ce chemin, c'est Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est la porte. Donc cette porte du tabernacle qui existait nous parle encore aujourd'hui. Elle nous parle d'une seule porte. Et cette seule porte, c'est Jésus qui nous donne accès à Dieu. La plupart des gens cherchent à aller vers Dieu, mais par leurs propres moyens. C'est-à-dire par la religion, il existe plus de 10 000 religions, ce sont des portes, des formes d'accès à chercher Dieu, mais il n'y a qu'une seule porte, Jésus dit, il n'y a qu'un seul chemin, et c'est par Jésus que l'on vient vers Dieu. Venez à Jésus aujourd'hui, il est le chemin, mais il est le médiateur entre Dieu, le Dieu très saint, qui est au ciel, qui est vraiment dans la sainteté, dans la pureté, et puis nous qui sommes pécheurs, eh bien Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. J'ai pensé aussi à ce verset parce que nous devons entrer par cette porte. Et quand nous venons dans la présence de Dieu, comme nous le faisons ce matin, nous rentrons, c'est la première étape, nous passons par une porte. Et la Bible dit dans le psaume 100, verset 4, « Entrez dans ces portes avec des louanges. » Voilà l'attitude dans laquelle nous allons rentrer dans sa présence. Premier pas. Première étape, entrer dans ces portes avec des louanges. Célébrez-le, bénissez, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. C'est très important l'attitude dans laquelle nous entrons dans la présence de Dieu. Car si nous entrons avec des gémissements, avec des plaintes, des lamentations, en se plaignant du temps, en se plaignant de l'un, en se plaignant de l'autre, bien nous n'entrons pas dans les portes dans une bonne attitude, une bonne atmosphère pour célébrer le Seigneur. Venons avec des critiques, des jugements, des comparaisons, et nous condamnons l'un, nous jugeons l'autre, il y a de l'amertume. Alors nous devons apprendre à orienter nos cœurs, déposer tous nos fardeaux, nos soucis, et entrer dans ces portes avec nos regards et notre attention fixée sur le Seigneur. C'est tout différent. Vous allez voir que si vous vivez le culte en entrant dans ces portes avec un état d'esprit de louange, c'est très différent que si vous entrez dans ces portes en pensant à tous les problèmes, à toutes les situations, à toutes les difficultés, tout le mal qu'on vous a fait, toutes les souffrances que vous vivez, que vous ruminez dans votre esprit. Vous n'arriverez pas à exprimer votre louange, votre reconnaissance. Donc c'est un travail à faire de passer par la porte et de dire ce matin, j'ai eu une semaine difficile, peut-être mon patron m'a mené la vie dure, mais j'ai décidé d'entrer dans ces portes avec des louanges et des reconnaissances dans ma bouche. Si je ne prends pas cette décision, si je ne suis pas convaincu, bien je vais être chargé, je vais être abattu, je vais rentrer dans ces portes, mais déjà dans un autre état d'esprit, un état d'esprit accablé, un état d'esprit abattu, et je n'aurai pas l'impulsion, le désir, le souhait de louer le Seigneur. Donc tout ça, c'est un travail en amont que nous devons faire dans la prière, avant même d'entrer dans ces portes, en orientant nos pensées vers la reconnaissance, vers la louange. Première étape, entrer dans ces portes avec des reconnaissances. Deuxième étape, le premier élément que l'on trouve en arrivant dans l'enceinte du tabernacle, ce qu'on appelle le parvis, c'est l'autel des holocaustes. Il est imposant et c'est là qu'avaient lieu les sacrifices de tous les animaux. Il y avait des animaux qui étaient égorgés, le sang coulait et ils étaient ensuite brûlés. Ça nous parle du sacrifice. Il faut savoir que les animaux qui étaient offerts à Dieu, ce n'était pas n'importe quels animaux. Si vous aviez un animal un peu chétif, malade, il manquait un œil, etc. Ce n'était pas ces animaux-là, il fallait des animaux saints, des animaux innocents, des animaux purs, sans défaut. Et c'est ça, c'est ces meilleurs animaux qu'on offrait au Seigneur. Et nous savons que cet autel, en fait, est une image pour nous, aujourd'hui, de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ qui s'est offert en sacrifice. Cet autel, donc, nous parle de la croix. Et quand nous passons par les portes pour entrer dans sa présence, eh bien, souvenons-nous de l'œuvre de la croix. La croix doit être au centre de notre vie, au centre de notre foi, pour le prier, pour le bénir. Rappelons-nous du prix du sacrifice. La croix, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'un... Ce n'est plus un animal, mais quand même, il y a comme un parallèle. Quand Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu », il parle de Jésus, mais il parle d'un agneau. « Voici l'agneau, comme un agneau, sans défaut, sans tâche. » Il ôte le péché du monde. Son sacrifice est toujours efficace pour nous aujourd'hui. Son sacrifice est toujours la preuve. En fait, c'est la preuve que Dieu nous aime. C'est écrit dans Romains chapitre 5, verset 8. « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Alors, nous pouvons passer du temps à remercier le Seigneur pour son sacrifice à la croix. Voilà une deuxième étape. Considérer son œuvre, sa grâce, nous ne méritions rien et il nous a sauvés par amour. Lui, il était saint, il était innocent, sans péché. Merci Seigneur, parce que tu m'as aimé. Alors que j'étais encore pécheur, j'étais encore loin de toi, tu as déjà versé ton sang à la croix pour effacer mes péchés. Ça nous parle de la perfection de Dieu, parce que ce n'est pas le sang d'un homme seulement qui a coulé, c'est le sang du Fils de Dieu. Et ce sang, il a une valeur éternelle. Si bien qu'aujourd'hui, on est encore sauvé par l'œuvre de Christ à la croix faite il y a 2000 ans, ce sang est toujours efficace. Réaliser aussi les souffrances de notre Sauveur. On doit réaliser combien il a payé le prix pour notre salut. Et chaque clou, chaque coup de fouet, les épines plantées dans son front, le sang qui a coulé, les clous, il a eu toutes sortes de plaies à cause de nos péchés. La Bible dit qu'il était couvert de ce sang, mais ce sang, en fait, c'était notre salut, c'était notre victoire, le sang de la croix. Donc, louons le Seigneur pour son sang précieux qui a coulé. C'est aussi l'étape de la repentance. C'est très important, le message de la repentance. Et en fait, pour tout vous dire, le message de la repentance, c'est le premier message que Jésus a donné sur la terre, après son baptême. Le message de Jésus, il y avait deux choses. Mais la première des deux choses, c'était « repentez-vous ». Et la deuxième chose, c'est « croyez à la bonne nouvelle ». Mais le premier message de Jésus, c'est bien la repentance. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Nous devons demander pardon à Dieu pour nos péchés. Mais notez ceci, c'est que il n'y a pas de hasard. Si Jésus parle de la repentance et de la foi, c'est que les deux vont ensemble. Et en fait, ce sont les deux faces d'une même pièce qu'on appelle la conversion, faire demi-tour par rapport au péché et s'attacher à Dieu. La repentance, c'est faire demi-tour par rapport au mal. On était dans le péché, on était dans l'ignorance, on vivait dans le monde. C'est renoncer à ce péché et la foi, c'est s'attacher à Dieu. Et là, vous vivez la vraie conversion. Et finalement, il y a assez peu de gens qui vivent la vraie conversion parce qu'ils font une repentance superficielle. Et quand on n'a pas fait une vraie repentance, c'est-à-dire demander vraiment pardon pour nos péchés et réaliser les péchés qu'on a commis, eh bien la conversion, elle n'aboutit pas vraiment. On a peut-être changé un petit peu, mais vous voyez, ce n'est pas complet. On n'est pas vraiment attaché à Dieu comme il devrait et finalement, ça ne tient pas dans la durée. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de personnes abandonner, lâcher la main du Seigneur. C'est des conversions souvent de surface. La repentance est absente, elle n'est pas enracinée. Eh bien, il n'y a pas de conversion durable sans repentance authentique. En fait, Jésus a bien fait de nous parler de la repentance en premier parce que sans la repentance, il n'y aura pas toute la suite qui va venir, c'est-à-dire la nouvelle naissance, la vie chrétienne, la foi, l'avancée avec le Seigneur, toutes les bénédictions qui découlent d'un réel bon démarrage dans la repentance. Et puis, j'allais dire, cet autel du sacrifice nous parle aussi d'un engagement personnel, une consécration à Dieu. Parce qu'il y a un verset parallèle à Jean 3,16, tout le monde connaît Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le résumé de l'Évangile. Mais il a son parallèle dans 1 Jean 3,16, qui est beaucoup moins connu. Et si vous mettez Jean 3,16 et que vous mettez à côté 1 Jean 3,16, vous allez voir ce que Dieu attend de nous, parce que Jésus est mort à la croix, oui, pour nos péchés, mais il attend de nous un sacrifice. Et ça, souvent, ça passe à côté. Ça passe à côté de nos considérations. 1 Jean 3,16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. On est d'accord, 1 Jean 3,16, c'est bien ça. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Voilà la conséquence du sacrifice de Jésus. Ce n'est pas juste un sacrifice qu'il a accompli pour moi, mais il nous demande, si vous croyez, vous acceptez mon sacrifice, moi je vous demande, vous allez vous aussi vous sacrifier pour les autres. Et il y a cette notion aussi dans l'autel du sacrifice que Jésus est monté sur l'autel, mais maintenant j'ai réalisé, c'est à moi de m'offrir en sacrifice, de me donner pour l'œuvre de Dieu. Et j'ai remarqué que c'est le mot « devoir », nous devons, c'est donc la voie par laquelle nous devons marcher, c'est le sacrifice, c'est faire des choses pour l'œuvre de Dieu, c'est une vie de service, une vie de consécration, une vie d'engagement. Voilà ce que Dieu attend de nous. Pas simplement de dire « je suis sauvé, gloire à Dieu, je profite, je viens au culte, je reçois la parole ». Ça, c'est le niveau zéro de la consécration. Mais la consécration, c'est l'engagement d'une vie à servir, à faire des œuvres, à travailler dans son champ, dans sa moisson, à être utile dans tout ce qu'il nous met à cœur de faire. Il y a beaucoup d'œuvres à faire pour le Seigneur. Et c'est la volonté de Dieu à notre égard. En fait, en étudiant la Bible, on se rend compte que beaucoup, beaucoup de gens veulent la bénédiction, mais très peu sont prêts à faire le sacrifice. Or, Jésus dit, ça, l'un ne va pas sans l'autre. La bénédiction passe par le sacrifice. Si tu veux la bénédiction, il y a le sacrifice. Il n'y a pas moyen d'échapper à cela. Regardez Romains chapitre 12, verset 1, Paul confirme. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Paul sait que la bénédiction, la volonté de Dieu, c'est le chemin du sacrifice. Il n'y a pas d'autre chemin. Ça sera agréable à Dieu, ça sera de votre part un culte raisonnable. Donc le culte, ce n'est pas juste l'adoration comme nous la vivons, c'est-à-dire faire monter vers Dieu nos reconnaissances, c'est l'adoration, c'est une forme d'adoration, Mais Paul dit, cela va plus loin, ça va jusqu'au don de soi, ça va jusqu'au sacrifice, c'est-à-dire monter sur l'autel, l'autel des holocaustes, et dire, Seigneur, tu as donné ta vie pour moi, je veux maintenant donner ma vie pour ton œuvre, pour les frères, servir, m'engager, faire ta volonté. Voilà le culte raisonnable que Dieu attend. Et beaucoup de gens veulent bien une religion qui leur apporte. Oui, Seigneur, bénis-moi, oui, Seigneur, donne-moi. Mais très peu veulent une religion où on leur demande de tout donner. Tu donnes tout, tu donnes ta vie, tu donnes tes biens, tu donnes tout pour l'œuvre de Dieu. C'est le sacrifice. Et c'est cela que Dieu attend de nous. Suivre Jésus, ça coûte tout. Regardez Marc 8, 35, c'est Jésus qui le dit. Jésus dit ceci, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Il est question ici de perdre ce que nous avons de plus précieux, la vie, mais pour la cause de Christ. Ça nous parle de sacrifice. Suivre Jésus, il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre voie. Ça passe par l'autel de l'Holocauste. Donc, on est entré dans les portes avec des louanges, on se souvient de la croix, on monte sur l'autel du sacrifice pour s'offrir en sacrifice de consécration. Troisième étape, c'est la cuve des reins. La cuve des reins. Le sacrificateur devait se laver les mains et les pieds avant d'entrer dans le lieu saint, la tente du tabernacle. Et donc, cette cuve était faite en fait avec... Le fond de cette cuve était faite avec les miroirs que les femmes avaient apportés. Donc, elle reflétait le visage du sacrificateur lorsqu'il se lavait les mains. Le mot miroir dans la Bible est un mot extrêmement rare qui, dans toute la Bible, ne revient que 5 fois. Notamment une fois ici. Et on le retrouve une autre fois dans le Nouveau Testament. Et ce miroir, en fait, est une image pour parler de la parole de Dieu. Dans Jacques, chapitre 1, et le verset 23. « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. » En fait, c'est l'étape où on regarde dans la parole, mais ça nous parle de regarder dans notre cœur, l'introspection, de voir où nous en sommes avec Dieu. Est-ce que je me suis éloigné de Dieu? Est-ce que j'ai perdu le feu du premier amour? Ou est-ce qu'il y a toujours dans mon cœur ce zèle? Et c'est le temps de l'analyse de nos pensées. Est-ce que j'ai péché en pensée, en parole? Et c'est un temps d'humilité parce que nous savons que nous sommes faibles. Et là, nous répandons notre cœur devant Dieu en méditant sa parole. Méditer la parole, en fait, c'est comme si vous versiez de l'eau pour purifier votre cœur. Méditer la parole va vous laver. Regardez lors de la dernière Pâque, quand Jésus a mis le comble à son amour pour ses disciples. Il les a réunis une dernière fois et il a dit « on va célébrer le repas de la Pâque ». Et la Bible dit qu'aucun des disciples présents n'a voulu laver les pieds des autres. Et comme personne n'a voulu le faire, Jésus a commencé à le faire. Et ce que j'ai remarqué, c'est que si Jésus commençait à le faire, il y aurait pu au moins y avoir un disciple qui a dit « non, arrête Seigneur, on va le faire, je vais le faire ». Personne. Ils ont laissé le Seigneur faire la tâche qui revenait aux disciples. Déjà, ça aurait dû leur parler. Mais quand Pierre a été bousculé, parce que quand ça arrive autour de Pierre, il est saisi et il réalise que c'était à lui de le faire, il dit « mais non Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds ». Et c'est comme s'il réalise que c'était à lui de le faire. Mais le Seigneur voulait lui donner un enseignement. Il lui dit, mais si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Et là, Pierre change et il dit, ben alors lave-moi non seulement les pieds, mais les mains et la tête. Et Jésus lui dit, celui qui est baigné, Jean 13, 10, n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Et nous avons régulièrement besoin de passer par cette cuve, ce bassin de la parole de Dieu qui va nous laver, qui va nous purifier. On a été lavé une première fois, c'est quand on a donné notre cœur au Seigneur. C'est ce qu'il dit, celui qui s'est baigné, qui s'est lavé entièrement, il n'a pas besoin de retourner là. Mais il a besoin de régulièrement passer son cœur dans le bassin de la parole de Dieu qui va purifier ses péchés. L'Église doit être purifiée par l'eau de la parole, on trouve ça dans Éphésiens 5, 26. La Bible dit que Christ s'est livré pour l'Église afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Et là, on se rend compte que la parole est indispensable tous les jours. Et très peu, finalement, de chrétiens lisent leur Bible tous les jours. Beaucoup oublient, n'ont pas le temps, considèrent qu'ils connaissent déjà. Et dès le matin, ils se renseignent sur la météo, sur les infos, qu'est-ce qui est arrivé pendant la nuit. Ils consultent les mails, ils s'intéressent aux réseaux sociaux, s'ils attendent des messages, des retours. Alors que la première chose à faire en se réveillant, c'est de tourner nos pensées vers notre Créateur, vers notre Seigneur. Et ça, c'est un travail à faire, c'est un effort à faire, c'est une décision à prendre. Que la première chose à faire le matin, c'est de tourner nos pensées vers Dieu et de méditer sa parole, de méditer son œuvre. Parce que nous, on est différents des animaux, vous voyez. Une vache, par exemple, la première pensée qui lui vient quand elle se réveille, c'est « qu'est-ce que je vais brouter, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui ?» Les cochons, c'est pareil. Le cochon qui se réveille, c'est « qu'est-ce que je vais... » Vous donnez à manger un cochon, il mange. En fait, il mange tant qu'il a à manger. Il ne se pose pas de questions existentielles. Pourquoi suis-je sur la terre ? Or, nous devons avoir une pensée plus élevée que les animaux. Nous ne sommes ni des vaches, ni des cochons. Nous sommes des créatures de Dieu, à part, avec cette pensée que Dieu a mise dans notre cœur, la pensée de l'éternité. Seul le plan de rédemption, la mort de Jésus à la croix, a été fait pour les êtres humains. Et nous sommes dans le cœur de Dieu. Et nous devons en retour, nos premières pensées, chaque jour, frères et sœurs, nous tourner vers Dieu dans l'adoration, la reconnaissance, méditer la parole. C'est tellement important et nous devons nous décider à développer des pensées spirituelles plus élevées que ce que nous faisons pour pouvoir passer du temps dans sa présence. Ne restons pas au stade, comme ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, la première chose qu'ils font en se levant, ils s'intéressent aux choses du monde. Nous sommes différents, nous devons avoir ce niveau spirituel de chercher les choses d'en haut, chercher les choses de Dieu. Autre élément, c'est que le sacrificateur devait se purifier avant d'entrer dans le lieu saint. Hébreux chapitre 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification. » Parce que ce bassin nous parle de sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, cette sanctification, c'est désirer que le Seigneur nous nettoie en personne, nous purifie notre cœur et on apporte notre âme à Dieu. Quatrième étape, c'est l'étable, la table des pains. Maintenant, on rentre dans le lieu saint. Vous aviez trois éléments. Premier élément, la table. Cette table, couverte d'or pur, contenait 12 pains. 12 pains qui étaient renouvelés constamment. Ces 12 pains nous parlent de la provision de Dieu. Et on peut le bénir pour ses grâces qui se renouvellent chaque jour. Tous les jours, les Hébreux, ils avaient la manne dans le désert. Ils avaient le pain de Dieu. Eh bien, nous avons le vrai pain du ciel qui est Jésus, qui nourrit notre âme tous les jours. On a besoin d'être renouvelé dans sa présence. Et la seule nourriture de notre âme, c'est ce pain, cette parole qui est bonne pour nous. C'est vrai que si on veut aller manger quelque part, bon aujourd'hui c'est un peu plus compliqué avec la situation, mais on a le choix des restaurants. On peut choisir, aller on va manger chinois, ou aller on va manger japonais, ou aller on va manger un couscous. On a le choix, mais le meilleur choix en tout cas pour notre âme, c'est toujours la parole de Dieu. C'est celle qui nourrira le mieux votre âme. Il n'y a pas de meilleure parole, il n'y a pas mieux pour votre âme que la parole de Dieu. Priez aussi pour les ministères de la parole, parce que la parole, vous l'avez avec vous, c'est la parole écrite, nous la méditons, mais il y a aussi la parole proclamée. Et Dieu a voulu qu'il se lève des hommes, des serviteurs, des servantes pour témoigner, pour proclamer, propager cette bonne nouvelle de la parole de Dieu. Priez pour tous ceux qui ont la charge de la parole de Dieu, c'est tellement important. Vous avez acte 6, les diacres ont été suscités pour venir en aide à ceux qui portaient la parole, afin qu'ils se consacrent au ministère de la parole et à la prière. Et puis cette table nous parle de la communion, à la fois la communion avec Dieu que nous devons avoir, et dans ce temps de prière, eh bien, cherchons à être unis à Dieu, et puis cherchons à être unis les uns aux autres, dans un même esprit, un même cœur. Cinquième étape, toujours dans le lieu saint, il y avait le chandelier, qui était réalisé en sept branches, et c'était le seul objet qui permettait qu'il y ait de la lumière, parce que tout était dans, Tout était dans un lieu fermé. Et ces lampes brillaient en permanence et permettaient d'avoir l'éclairage dans le lieu saint. Et le chandelier, ça représente bien sûr l'image du Saint-Esprit avec cette huile, parce que le chandelier était alimenté par de l'huile en permanence, cette huile qui est une image, un symbole de l'Esprit. Le Saint-Esprit qui ouvre nos yeux, le Saint-Esprit qui est une source de révélation, puis le Saint-Esprit qui nous conduit dans la prière, Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il y a donc un temps à trouver où on prie par l'Esprit. On en a parlé un petit peu avec 1 Corinthiens chapitre 14, quand il est question de la prière en langue, où on prie par l'Esprit. On priera par l'intelligence, dit Paul, mais on prie aussi par l'Esprit. On dit d'excellentes choses à Dieu par l'Esprit. Donc ce sont des temps de prière où on est poussé par l'Esprit, on est poussé à prier. Peut-être vous aviez prévu un programme, puis vous êtes poussé par l'Esprit à mettre un temps de prière. Eh bien, ce sont ces temps-là qui sont bénis. Concernant le chandelier, je parlerai des 7 flammes, 7 lampes du chandelier. Ce n'est pas au hasard que le chiffre 7, bien sûr, est mentionné. Vous savez que le chiffre 7, c'est la perfection. Mais il est question dans l'Apocalypse que du trône sortent des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, et devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. 7. 7, c'est la perfection. 7, c'est devant le trône de Dieu. Et il y a 7 noms qui ont été donnés au Saint-Esprit dans Ésaïe. Ésaïe, il parle d'abord de l'Esprit de l'Éternel, ensuite l'Esprit de sagesse, Esprit d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte. 7 noms du Saint-Esprit qui sont attribués par Ésaïe. 7, donc ça, c'est la cinquième étape. 6e étape, on arrive à l'autel des parfums. L'autel des parfums, parce qu'Aaron devait offrir tous les jours des parfums. Alors ça montait vers Dieu. C'est un peu l'image des prières qui montent vers le Seigneur chaque matin. Entre les deux soirs, il devait apporter ses prières. Et dans l'Apocalypse, nous savons que nos prières sont comme un parfum qui monte devant le trône de Dieu. Et c'est très important chaque matin d'avoir ce temps de prière, d'élévation, élever nos cœurs vers le Seigneur. Et il le faisait tous les jours. Vous voyez, Dieu aime la régularité. La Bible dit que dans les Actes des Apôtres, il persévérait dans l'enseignement et dans les prières. La régularité, ça plaît à Dieu. Tous les jours, ces parfums qui montent vers Dieu. Donc c'est l'intercession, c'est la prière et de prier pour tous les besoins. Donc c'est dans ce temps pour s'approcher de Dieu. Sachez qu'il était interdit à Aaron d'apporter un parfum étranger. Ça veut dire qu'il y a des prières qui n'ont pas leur place. C'est comme un parfum étranger que Dieu n'en veut pas. Ce sont les prières charnelles, des prières égoïstes, des prières qui sont faites pour notre intérêt, qui ne concernent pas vraiment l'œuvre de Dieu, ni les besoins. On va prier pour des choses insensées. Et Jacques en parle dans Jacques chapitre 4, verset 3. Il dit « Vous demandez, mais vous ne recevez pas. » C'est comme un parfum étranger. « Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Ce type de prière n'est pas exaucé, n'est pas agréé de Dieu. Et enfin, la 7e étape pour s'approcher de Dieu, c'est le lieu très saint. On arrive maintenant dans la 2e partie du tabernacle proprement dit, le lieu saint tout d'abord, mais le lieu très saint qui contenait l'arche de l'Alliance et le propitiatoire, c'est-à-dire le couvercle qui était au-dessus de l'arche avec ses deux chérubins qui se faisaient face. Alors dans l'arche de l'Alliance, vous aviez 3 choses. Tu peux passer l'image ? Il y avait 3 choses. Il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Le bâton d'Aaron qui avait fleuri, ça nous parle de résurrection parce que c'était un bâton mort et il avait fleuri. Donc Dieu est le Dieu de la résurrection. La manne qui était dans un vase d'or, la manne, ça nous parle du Dieu qui pourvoit à tous nos besoins infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et puis les tables de la loi qui nous rappelaient les exigences de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est saint. Et il veut que nous soyons saints. Il a les mêmes exigences. Il avait ses exigences des 10 commandements. Alors, regardez cette projection. Vous avez sur le propitiatoire, en fait, il faut savoir que les 3 objets que j'ai montrés ici, ils étaient dans le coffre, on ne les voyait pas. Ils étaient dans le coffre. mais sur le coffre, le sang était versé. Vous le voyez ici matérialisé en rouge. Et les chérubins, si vous vous rappelez la première fois qu'on voit les chérubins dans la Bible, ils étaient là avec une épée flamboyante, c'était pour empêcher Adam et Ève de revenir dans le jardin d'Éden. Ils étaient là pour le jugement et la condamnation. Mais ces chérubins-là, ils ne sont plus là pour le jugement et la condamnation. Pourquoi ? Parce qu'ils regardent vers le sang. Et le sang est en train de couvrir. Il est en train de couvrir la loi. La loi qui est une loi de condamnation. Si vous n'observez pas toute la loi, vous mourrez dans vos péchés. Donc, grâce au sang de cet animal qui était versé, eh bien, les chérubins ne condamnaient plus, mais ils faisaient grâce. Cela nous parle que maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous êtes acceptés, vous êtes graciés parce que Jésus a payé pour vos péchés. Le sang a été versé et c'est d'une manière définitive. Et Jésus ne nous demande plus d'accomplir la loi. La loi, vous voyez, elle est dans le coffre, elle est recouverte par le sang. Elle nous demande de venir en Christ qui a accompli la loi pour nous. C'est en venant en Christ que nous accomplissons la loi. Nous ne pourrions pas l'accomplir par nos efforts. Et c'est dans ce temps où vous voyez, au-dessus des chérubins, en fait, il y avait la présence de Dieu, la sainte présence de Dieu. C'est là que Dieu parlait à Moïse, qu'il se révélait à son peuple, dans ce tabernacle. Et c'est là où, en fait, la miséricorde de Dieu et sa justice se rencontrent pour faire grâce, pour bénir, pour accorder la paix. D'un côté, il peut faire justice parce que le sang a été versé. D'un côté, il peut faire miséricorde puisqu'on a été pardonné. Il y a vraiment cette rencontre de la justice et de la miséricorde. C'est l'étape de la véritable adoration. Peut-être là, on est dans la contemplation, on est dans la reconnaissance, dans l'adoration. On le célèbre pour tout ce qu'il est, pour son amour. Et puis l'arche, on peut dire Apocalypse chapitre 11, verset 19, l'arche est une image sur la terre de ce qu'il y a dans le ciel. Et regardez si on pouvait voir dans le ciel le temple de Dieu céleste maintenant. Apocalypse 11, 19, Apocalypse, c'est Jean qui nous dévoile ce qui se passe au ciel. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. J'ai dit tout à l'heure que le tabernacle, c'est l'image terrestre de ce qu'il y a vraiment dans le ciel qui est invisible. Eh bien, il y a le temple de Dieu dans le ciel. Et qu'est-ce que vous voyez dans le temple ? Et l'arche de son alliance apparut dans le temple, et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Et l'arche de l'Alliance, c'est le lieu de la sainte présence de Dieu. Et c'est là que nous sommes dans l'adoration et la reconnaissance. Passons ce temps au pied du Seigneur en cherchant sa face. Je termine. Le tabernacle, rappelez-vous, le tabernacle, c'est terminé, c'était pour les Hébreux dans le désert, mais le message du tabernacle, le plan du tabernacle n'est pas terminé, il a une valeur spirituelle. Entrons tout d'abord dans sa présence, dans ses parvis, avec louange, avec reconnaissance. Considérons la croix, ça c'est l'autel, l'autel des holocaustes. Considérons combien Jésus a payé et montons nous-mêmes sur l'autel du sacrifice pour nous donner pour les autres. Lavons-nous régulièrement dans le bassin, ce bassin des reins, les mains, par la parole de Dieu. Quand nous entrons dans le lieu saint, nous considérons la table avec les pains, c'est la communion avec Dieu, la communion avec les autres. C'est le fait que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Il y a aussi le chandelier qui nous parle de ce Saint-Esprit qui illumine nos cœurs. C'est là qu'on peut parler en langue. Comme je l'ai dit, Paul dit « Je parle en langue plus que vous tous ». Bien, prenons du temps pour parler en langue au Seigneur quand on est baptisé du Saint-Esprit et laissons-nous conduire par l'Esprit dans nos prières. Et puis, il y a cet autel de parfum, ce sont notre intercession, les prières qui montent vers Dieu. Nous ne le voyons pas, mais nos prières sont en train de monter vers Dieu comme un parfum. Et puis, nous passons derrière ce voile pour entrer dans le lieu très saint, c'est l'adoration, la contemplation. Et passons ces temps au pied du Seigneur, peut-être dans le silence, dans la contemplation, le cœur ouvert, en cherchant sa face, en écoutant sa voix. J'aimerais prier. Merci pour ce modèle, ce plan de prière du tabernacle qui nous est enseigné à travers toute cette architecture qui a existé, mais qui n'est que le reflet terrestre des choses célestes. Et nous voulons saisir encore aujourd'hui qu'il est nécessaire de s'approcher de toi en considérant ton œuvre et tes bienfaits, ta bénédiction. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que nous pouvons être lavés, purifiés par le sang de Jésus, parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce qu'il y a la vie, il y a la victoire, Seigneur, dans ta présence. Il y a tellement d'abondante joie devant ta face. Merci, Seigneur, d'implanter dans nos cœurs ces réalités spirituelles. Et je te prie pour des décisions ce matin, afin de prendre à cœur de prier tous les jours et de passer ce temps. La première chose que nous faisons dès le matin, c'est de nous tourner vers toi et de prendre cet engagement, d'avoir cette pensée et de bénir le Seigneur et de louer le Seigneur de tout notre cœur. Oui, tu en es digne. Je te dis à toi toute la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.